Vortex et Rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes sur Radio Dragon 104.4 et 96.8 et Campus Grenoble 90.8 pour le 7e épisode de Vortex et Rotative.
Nous allons aujourd'hui vous présenter le roman de Neddy Okorafor intitulé « Qui a peur de la mort ?», publié en 2010 sous le titre « Who Fears Death ?», puis traduit en français en 2013 par Laurent Philibert Kaya.
Ce roman, plusieurs fois primé, est en cours d'adaptation pour une série télévisée par George R.R. Martin.
Neddy Okorafor a la double nationalité états-unienne et nigériane et se définit elle-même comme Nige-américaine. Elle est née dans l'Ohio et ses parents sont Igbo nigérians. Elle fait des études scientifiques dans l'Illinois et arrête le sport de haut niveau après une opération chirurgicale qui tourne mal. En 2001, elle est diplômée en littérature ainsi que de l'atelier Clarion Writers. Elle travaille à l'université de Buffalo comme professeure associée en littérature et écriture créative et se consacre en parallèle à l'écriture d'ouvrages de science-fiction. Elle a écrit plusieurs romans pour ados, dont Akata Warrior et Akata Witch, qui sont primés et ont été traduits en français aux éditions L'École des loisirs. Elle a écrit de nombreux romans, dont Qui a peur de la mort et Binti. Cependant, comparé au grand nombre de romans qu'elle a écrits, très peu sont traduits en français pour l'instant. Elle rédige aussi des scénarios de bande dessinée, dont 4 comics Marvel, ainsi que la bande dessinée La Guardia, récompensée aussi par plusieurs prix littéraires. Son dernier roman, Remote Control, a été publié début 2021 aux États-Unis. Dans ses ouvrages, elle questionne à la fois le racisme, le colonialisme et le patriarcat, mais elle refuse le qualificatif d'afro-futuriste, qu'elle trouve trop vague. Elle utilise plutôt les termes « African Futurism », futurisme africain, et le réalisme magique. Neddy Okorafor combat les stéréotypes dans la SF occidentale et crée des personnages de femmes africaines complexes, dépositaires de savoirs millénaires. Elle parle d'identité, de féminité, des traditions, des rapports avec la nature, de la violence. Le tout dans des paysages qui rappellent l'Afrique.
Je suis africaine, même si je suis née et ai été élevée aux États-Unis. Mes parents nous ont emmenés, mes frères et sœurs et moi, au Nigeria depuis que nous sommes enfants, pour rester en contact avec notre famille. Ce pays a largement contribué à mon éducation et à faire de moi la personne que je suis actuellement. C'est donc normal qu'il apparaisse fortement dans ce que j'écris. Et une grande partie de l'histoire de « Qui a peur de la mort » a également un lien direct avec moi. Par exemple, le génocide cité dans le livre n'est pas uniquement basé sur celui du Soudan, mais aussi sur la guerre civile nigériane. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis né aux États-Unis et non au Nigeria. Mes parents y sont allés pour étudier et voulaient retourner au Nigeria, mais à cause de la guerre du Biafra à la fin des années 1960, ils n'ont pas pu. Alors ils sont restés aux États-Unis. Il n'existe pas une seule famille nigériane qui ne soit encore hantée par les fantômes de cette guerre civile. Sur les terres d'un Soudan post-apocalyptique, les Nourou mènent une guerre génocidaire contre les Okeke depuis des temps ancestraux. La protagoniste et narratrice du roman, Onye Sonwu, est née d'un viol de guerre, utilisé de manière systématique par les Nourou contre les femmes Okeke. Elle est Ewu, métisse, et passe ses premières années isolée dans le désert avec sa mère, rejetée alors par les siens. Quand elle s'installe finalement dans une ville Okeke très éloignée des affrontements, l'espoir de s'intégrer à la communauté et de trouver enfin une vie tranquille s'effondre vite face au rejet parfois violent des habitantes. À la mort de son père adoptif, On Ye-sun-woo comprend qu'elle possède des pouvoirs de sorcellerie. L'adolescente se lance alors dans une quête pour apprendre à développer et à maîtriser ses pouvoirs et à trouver comment elle pourra s'en servir contre l'emprise maléfique de son père biologique et pour faire cesser la guerre. Elle est accompagnée dans cette quête par son amoureux, Mvita, et Woo également, et ses meilleurs amis, Binta, Diti et Luyu. Pour chacun de ces personnages, l'histoire racontée dans ce roman, qui les poussera toutes à leurs limites, sera autant une remise en question des traditions patriarcales, une quête de leurs identités respectives, une expérimentation de leurs liens amoureux et amicaux, qu'un combat contre la haine et la violence destructrice. On Ye-sun-woo ne sera pas la seule à devoir faire face à la question que pose son nom. Qui a peur de la mort ?
L'histoire que j'ai écrite est devenue un roman qui est resté sans titre jusqu'à la moitié de sa rédaction. Cependant, une chose était claire, il parlait de mort, de perte, de douleur, de faire face malgré la souffrance, les sacrifices, le destin et la destinée, la religion et la spiritualité.
Une des premières choses à dire sur ce roman, c'est qu'il parle énormément de violence. Et on tient à vous avertir qu'on va aussi en parler ici et lire des extraits relativement explicites. Ça peut prendre différentes formes. Le viol, le génocide, l'inceste, l'excision, les discriminations, le rejet, l'exclusion sociale. Nnedi Okorafor est très forte pour raconter la violence, réfléchir à ses origines et ce qui la motive. Elle démontre par exemple clairement comment le viol est utilisé comme une arme de guerre par les Nourous pour détruire les communautés Okeke.
Outre la torture et l'humiliation, les Nourous et leurs femmes étaient venus pour engendrer des enfants Ewu. Ceux-ci ne sont ni le fruit d'un amour interdit entre Nourous et Okeke, ni des Noa, ces Okeke nés sans couleur. Les Ewu sont les enfants de la violence. Une femme Okeke ne tuera jamais un enfant qui pousse en elle. Elle osera même s'opposer à son mari pour le garder en vie. Toutefois, la coutume veut qu'un enfant appartienne à son père. Ces Nourous les avaient empoisonnés. Une femme Okeke qui donnait naissance à un enfant Ewu était liée aux Nourous par son biais. Les Nourous cherchaient ainsi à détruire à la racine les familles Okeke.
Au niveau des violences racistes, Okorafor explique très bien comment le rejet et l'exotisation peuvent aller de pair, et que cette dernière n'est pas moins violente que le premier.
C'était bizarre. La plupart des gens me rejetaient parce que j'étais Ewu. Mais parfois, les femmes se rassemblaient autour de moi. « Regardez sa peau !» se disaient-elles les unes aux autres. « Elle est si lisse et délicate, on dirait presque du lait de chameau. Et ses cheveux sont étrangement enchevêtrés, comme un nuage d'herbe sèche. Ses yeux sont ceux d'un chat du désert. Annie transforme parfois la laideur en une étrange beauté. Elle sera peut-être belle lorsqu'elle aura passé son 11e rite. À quoi bon ? Personne ne l'épousera jamais. » Et des rires. Au marché, des hommes avaient parfois essayé de me toucher, mais j'étais toujours plus rapide qu'eux et je savais griffer. Je l'avais appris auprès des chats du désert. Leurs gestes plongeaient toutefois la petite fille de 6 ans que j'étais dans la confusion.
Mais surtout, Okorafor raconte aussi très finement comment la violence opère dans l'esprit et le corps des personnes, ce qu'elle fait aux individus et aux communautés. Ainsi, elle décrit par exemple comment, lors du viol qu'elle subit, la mère d'On Ye-sun-woo se sépare de son corps et se met plutôt en position d'observatrice, ce qui est une stratégie de survie à des événements traumatiques connus sous le nom de dissociation.
Au bout d'un moment, Najiba devient glaciale, puis inerte. Puis muette. Elle se réduisit à une paire d'yeux qui se contentait d'observer la scène. Dans un sens, elle avait toujours été ainsi. Enfant, après être tombée d'un arbre et s'être cassé le bras, elle s'était relevée avec le plus grand calme, avait laissé ses amis paniquer, puis était retournée chez elle retrouver sa mère, qui l'avait emmenée voir une amie rebouteuse. Ce comportement avait le don d'énerver son père. Quand il la punissait d'une bêtise, elle ne laissait pas échapper le moindre son, quelle que soit la force des coups reçus. L'alousie de cet enfant n'a aucun respect, se plaignait-il toujours auprès de sa mère. Mais lorsqu'il était de bonne humeur, il la félicitait au contraire pour ce trait de caractère et disait souvent « Laisse ton alousie voyager, ma fille, vois ce que tu pourras voir. » À présent, son alousie, cette partie éthérée d'elle-même, capable de faire taire la douleur et d'observer, avait pris le devant. Son esprit enregistrait l'événement tout comme la caméra de l'homme, dans les moindres détails. Il nota que l'agresseur chantait d'une belle voix, malgré l'âpreté de ses paroles.
Un peu plus loin dans le récit, Okorafor raconte le désarroi que ressent Onye Sonwu quand elle apprend qu'elle est issue d'un viol.
Je n'étais pas ignorante des choses du sexe. J'étais même assez curieuse. Enfin, plus suspicieuse que curieuse. Mais je ne le connaissais pas sous ce jour, sous cette forme violente. Une violence qui engendrait des enfants. Une violence qui m'avait engendrée et qu'avait subie ma mère. J'étouffais une envie de vomir, puis de m'arracher la peau. Je voulus serrer ma mère dans mes bras, mais, en même temps, je refusais de la toucher. J'étais du poison. Je n'en avais pas le droit. Je n'arrivais pas à me forcer à appréhender ce que cet homme, ce monstre, lui avait fait.
À plein de reprises tout au long du récit, Onye Sonwu et sa mère Najiba y seront confrontés et on suit alors l'évolution de ces personnages face à ces traumatismes et comment elles trouvent des ressources et des stratégies pour se libérer de leur emprise. J'ai rarement lu des descriptions aussi pointues de l'impact des expériences violentes et qui font comprendre que les traumatismes psychologiques se manifestent aussi dans le corps des personnes. C'est d'ailleurs une caractéristique générale et très belle de l'écriture de Nnedi Okorafor. Elle décrit ce que vivent ces personnages d'une manière qui met toujours aussi en scène le corps. Elle nous permet en quelque sorte de partager l'expérience physique des émotions que traversent Onye Sonwu et ses amis, que ce soit de la douleur ou de la joie.
Cette présence du corps est aussi très vraie pour la colère. Et le personnage de Onye Sonwu est très en colère. Cette émotion va vraiment guider ses actes et sa manière de réagir. La colère est racontée dans ce roman de manière vraiment intéressante. Alors que d'habitude elle est souvent considérée comme une émotion négative, ici elle n'est pas jugée, ni comme positive ni comme négative. Onye Sonwu la ressent et doit apprendre à y faire face, et à ce que cette colère ne lui fasse pas perdre le contrôle. Et alors, la colère va lui servir de moteur, va lui donner de la force et lui permettre de se défendre. Et elle dit par exemple « Lorsque je suis vraiment en colère, lorsque je suis pleine de violence, tout devient facile, simple. » Finalement, la colère est présentée dans toute sa complexité, comme une émotion à double tranchant. Et si au début du roman, la colère lui fait perdre le contrôle, Onye Sonwu va apprendre à réagir à cette émotion et à s'en servir.
« Ma colère enfla. » Je sentais le sol se réchauffer, puis j'eus l'impression de me retrouver agenouillée sur des centaines de fourmis métalliques. Elles se déplaçaient sous moi, faisaient passer quelque chose à travers mon corps. Je compris. Je ramassais dans mes mains l'énergie répandue au sol. De plus en plus, il y en avait une réserve infinie, je puisais dans la colère que provoquait Haro, dans ma propre source d'énergie. Dans la force d'Haro aussi, j'aurais également utilisé celle de Mita s'il avait été là.
Tout au long du récit, Nnedi Okorafor décrit finement les relations entre les personnes, ni de manière stéréotypée, ni de manière manichéenne. Les relations sont développées dans toute leur complexité, que ce soit entre Onye Sonwu et sa mère ou avec son amoureux, Mita. Et notamment, elle décrit l'amitié qui va lier Binta, Luyu, Diti et Onye Sonwu après leur 11e rite, lorsqu'elles ont été excisées. Toutes les filles qui vivent le 11e rite ensemble ne restent pas liées ainsi. Mais ici, malgré leurs différences, malgré les préjugés de leur famille ou leur tempérament parfois incompatible, elles quatre vont être profondément soudées et partager leurs secrets et se soutenir mutuellement. Ce lien est renforcé par le fait qu'elles ont partagé une expérience très violente, l'excision, et qu'elles en subissent les mêmes conséquences, mais aussi qu'elles ont eu alors connaissance de secrets et d'intimité qui ont développé l'empathie et la solidarité entre elles.
Deux jours après, Diti revint en classe. « Ma mère a fini par me chasser de mon lit, » admit-elle avant d'imiter son ton sévère. « Tu n'es pas la première à passer par là. » Et puis, elle savait que vous étiez revenu. Son regard se posa rapidement sur moi, puis se détourna. Et je compris aussitôt que ses parents n'appréciaient pas que je sois dans le même groupe rituel que leur fille. Comme si je me souciais de ce qu'ils pouvaient penser. Quoi qu'il en soit, nous étions désormais liés, toutes les quatre. Les amis qu'avaient Louyou, Binta et Diti jusque-là n'importaient plus. Quant à moi, je n'avais pas d'amis à abandonner. La plupart des filles qui passaient leur 11e rite ensemble, bien qu'elles soient liées, ne le restaient pas après. Mais ce changement était naturel pour nous. Nous avions déjà des secrets. Et ce n'était que le commencement.
L'amitié collective qui lie Onye Sohanwoo, Diti, Binta et Louyou n'est pas pour autant simplifiée. Il y a des crises, des moments difficiles, et les quatre doivent prendre sur elles et mettre de l'énergie pour l'entretenir. Mais cette amitié leur apportera beaucoup en termes de réconfort, de soutien et de remise en cause. De la même manière, la relation amoureuse entre Muita et Onye Sohanwoo est montrée dans toute sa complexité et est une grande source de réflexion sur soi pour les deux personnages. La relation participe vraiment à leur évolution et leurs apprentissages. Sachant que l'apprentissage, surtout pour Onye Sohanwoo, se fait beaucoup à travers les leçons qu'elle tire de ses erreurs. Muita va souvent la confronter à ses comportements, lui transmettre du savoir aussi parfois. Mais inversement, Onye Sohanwoo va souvent lui reprocher ses positionnements, notamment sur sa manière de considérer les femmes.
Je t'ai dit de ne pas partir. Ce n'est pas parce que tu me dis quelque chose que je vais écouter. J'aurais dû faire en sorte que tu ne puisses pas passer le cactus, grommela-t-il. J'aurais trouvé moyen de le faire. C'était ma décision et tu aurais dû la respecter. Au lieu de ça, tu t'es contenté de dire à Haro que ce n'était pas ta faute si j'étais là, d'essayer de te couvrir. Je t'aurais tué. C'est précisément pour ça qu'il ne t'apprendra rien. Tu agis en femme. Tu te laisses gouverner par tes émotions. Tu es dangereuse. Je dus lutter pour ne pas lui donner raison. Tu le crois vraiment ? Demandai-je. Il détourna les yeux. J'essuyai une larme. Dans ce cas, on ne peut pas être... Non, je ne le crois pas, répondit-il enfin. Parfois tu te montres irrationnel, plus que n'importe quel homme ou femme. Mais ce n'est pas dû à ce que tu as entre les jambes.
Et en même temps, la relation de Muita et Onye Sohanwoo n'est pas non plus stéréotypée. Et c'est par exemple Muita qui est dans la prise de soins, qui guérit, tandis que Onye Sohanwoo aura des positions plus guerrières. Leur relation est montrée comme une longue négociation où rien n'est évident, où l'amour ne vient pas gommer les désaccords et ne permet pas d'échapper aux blessures.
J'avais chaud et j'étais en colère. Elle n'avait fait que raconter l'histoire de notre prétendue création. Elle ne la croyait pas. Que pensait l'homme qui venait de parler de Muita et moi ? Que, d'une certaine manière, nous méritions notre sort, que les parents de Muita avaient mérité la mort, que ma mère avait mérité d'être violée. Muita me frotta les épaules. Sans lui, j'aurais sans doute hurlé après cet homme et quiconque l'aurait défendu. Comme je le comprendrais bien assez tôt, je n'étais que blessure.
Et ce n'est pas l'apanage des relations que d'être traitées dans toute leur complexité. En fait, tout au long de Qui a peur de la mort, Neddy Okorafor développe un univers qui n'est pas manichéen. Il n'y a pas, par exemple, des humains sans pouvoir magique d'un côté et des sorciers et sorcières de l'autre. Mais la magie peut exister plus ou moins fort chez tout le monde. Et de la même manière, la guerre n'est pas racontée non plus de manière binaire. Sans nier le fait que le peuple Okeke est clairement asservi et persécuté par les Nourous, il en reste pas moins que, dans le cadre de la résistance, les Okeke en viennent aussi à faire des choses horribles. Dans cette histoire, personne n'est entièrement bon ou entièrement mauvais. Et c'est la même chose pour traiter la question des traditions. Ça se situe entre l'attirance, le respect, la critique et le rejet. Vous êtes toujours sur Radio Dragon 104.4 et 96.8 et Campus Grenoble 90.8 avec Vortex et Rotative.
Aujourd'hui, on vous présente Qui a peur de la mort de Neddy Okorafor.
Je songeais aussi à arracher la chaîne d'or à ma taille et à cracher mon diamant dans la poubelle. Mais je ne pus m'y résoudre. À un moment, ces deux objets étaient devenus une partie intégrante de mon identité. Sans eux, j'aurais eu honte.
Le rapport aux traditions est un autre thème traité de manière complexe et vraiment intéressante dans le roman « Qui a peur de la mort ». On Ye-sun-woo a un rapport assez ambivalent aux traditions qui régissent là, ou plutôt les sociétés mises en scène ici. D'un côté, l'expérience d'être rejetée à maintes reprises la pousse à chercher à s'intégrer dans une communauté. L'autrice montre alors comment des traditions participent à créer un sentiment d'appartenance, une identité partagée, et aussi comment elles peuvent aider à nous guider dans la vie. En même temps, On Ye-sun-woo n'est pas prête à suivre aveuglement des traditions dont l'origine est parfois oubliée depuis longtemps et qui enferment les personnes dans des rôles, notamment les femmes, mais aussi toutes les personnes qui sortent de la norme. La signification de telle ou telle tradition est l'objet de discussions tout au long du récit. Par exemple, celle de la magie, le joujou, appliqué lors de la clitoridectomie, pour renforcer son effet et qui fait que les filles ressentent des douleurs physiques intenses si elles ont des rapports sexuels avant le mariage.
Non, dis-je en passant le bras autour des épaules de Binta et en choisissant soigneusement mes mots. Je crois qu'on nous a imposé ce joujou lors de notre 11e rite. Il sera probablement neutralisé lors de notre mariage. Je lançai un regard dur à Louyou. Je pense que tu mourras si tu te forces à avoir un rapport. Ça s'arrêtera quand on se mariera, opina Diti. Ma cousine dit toujours que seule une femme pure attire un homme assez pur pour lui donner du plaisir dans le lit nuptial. Elle dit que son mari est l'homme le plus pur du pays. Probablement parce qu'il a été le premier à ne pas lui avoir fait mal. Bah, grogna Louyou avec colère. On nous mystifie pour qu'on prenne nos maris pour des dieux.
Le récit est plein de personnages féminins qui questionnent les traditions patriarcales et bravent les interdits, parfois frontalement, parfois avec des détours, et ce n'est pas toujours une décision facile à prendre. Ainsi, la guérisseuse du village raconte comment elle a quitté son mari parce qu'elle ne voulait pas partager tous ses secrets avec lui.
Tu as raison, On Ye-sun-woo. Il ne devrait pas y avoir de secrets entre mari et femme. Haro est plein de secrets et il ne s'embarrasse même pas d'excuses pour les garder. Je lui ai dit que je partais. Il m'a demandé de rester. Il a crié et menacé. J'étais une femme et lui un homme, a-t-il dit. C'est vrai. En le quittant, je suis allée à l'encontre de tout ce qu'on m'a appris. Ça a été encore plus dur que de quitter mes enfants.
Ce qui au début est surtout un réflexe de rébellion de la protagoniste contre des règles sociales injustes, devient au fur et à mesure de l'histoire une analyse plus fine et des choix de comportement plus assumés. Et cette manière de nous faire partager le cheminement des personnages, à comprendre les enjeux et à choisir qui elles veulent être là-dedans, ça fait vraiment partie de ce que j'ai aimé dans le livre.
Lorsque je me concentrais sur l'idée, je sentais le moineau et le vautour juste sous ma peau. « C'est là, sous la surface, » dit-il lentement. « Sens la plume avec tes doigts, frotte-la, pétris-la, ferme les yeux, souviens-toi, puise-y, puis deviens-le. » Dans ma main, la plume était lisse, délicate. Je savais précisément où elle devait aller. Le tuyau creux se fixait sur ma propre aile. Cette fois, j'étais consciente et maîtrisais la situation. Je ne fondis pas en une flaque amorphe pour prendre une autre forme. Il n'y eut pas ce néant transitoire. Mes os se plièrent doucement, craquèrent, rétrécirent. Ça ne faisait pas mal. Ma chair ondulait et glissait. Mes pensées se modifièrent. C'était encore moi, mais vu d'une perspective différente. J'entendis de légers bruits d'éclatement et de succion, et je sentis cette odeur puissante qui ne me parvenait que dans ces moments d'étrangeté. Je m'envolais haut dans le ciel. Mon sens du toucher faiblit car ma chair était couverte de plumes. Mais je voyais tout. Mon ouïe était si acérée que j'entendais la terre respirer. Lorsque je revins, j'étais épuisée et émue aux larmes. Tous mes sens bourdonnaient, même après que je me fus retransformée. Être nue ne me dérangeait pas. Mouita dut m'envelopper dans mon rapa pendant que je sanglotais sur son épaule. Pour la première fois de ma vie, je pouvais m'échapper. Quand le monde me semblerait trop étroit, trop étouffant, je pourrais m'enfuir dans le ciel. De là-haut, je verrais sans peine le désert s'y tirer bien au-delà de Jouahir. Je pourrais voler si haut que même l'œil ovale me perdrait de vue.
L'histoire est fortement marquée par la magie, le joujou, la sorcellerie, et c'est assez trippant. Dans l'extrait que vous venez d'entendre, Onye Sonwu apprend à maîtriser son pouvoir échou, le pouvoir de prendre la forme d'un animal. Une fois de plus, Nnedi Okorafor nous décrit l'expérience de son personnage avec moult détails physiques notamment. Si au cours du récit, Onye Sonwu va acquérir des pouvoirs de sorcellerie exceptionnels, à des degrés mineurs, le joujou fait partie intégrante de la vie sociale. À ce propos, Nnedi Okorafor dit dans une interview en 2014 avec un magazine français
« Qui a peur de la mort met en scène un système de magie, de créatures et de bêtes que je voulais voir depuis longtemps en imaginaire. La cosmologie Igbo, les mascarades, les Kponyungos. Les gens penseront qu'il y a beaucoup de choses dans ce roman que j'ai inventé. Mais pas du tout. Je pourrais raconter énormément d'histoires sur mes propres rencontres avec ces cérémonies, au Nigeria et même aux États-Unis, lors d'événements nigérians. Les mascarades sont des manifestations des esprits et des ancêtres, et ils ont une place importante dans beaucoup de traditions théâtrales et de célébrations africaines. »
Et en même temps, questionné sur le fait que l'Europe ne prend pas au sérieux la magie, Okorafor répond ceci.
« La sorcellerie est une chose puissante et tout dépend de votre sensibilité. Je ne suis pas sûr que l'Occident ne prenne pas au sérieux les sorcières. À une certaine époque, on a accusé et brûlé à tort beaucoup de femmes en Europe. Plus récemment, le succès mondial d'Harry Potter soulève aussi des questions sur l'importance de la magie dans nos sociétés et dans la pop culture. L'être humain est attiré par ce qui est mystérieux. Et en Afrique, cela peut prendre une grande ampleur. »
L'écriture de cette autrice nigériane états-unienne s'inscrit donc dans une démarche politique qui cherche à guérir les blessures du colonialisme européen.
La colonisation a détruit énormément de savoirs et de coutumes, particulièrement au Nigeria. Le côté traditionnel et la mythologie du pays ont beaucoup souffert à la suite de sa rencontre avec l'Empire britannique et le christianisme. Je veux faire revivre les vieux contes ou les histoires de sorcellerie avec mes écrits.
Et dans cette démarche, on retrouve aussi le refus des visions simplistes d'un bien et d'un mal absolu, qui marque aussi sa manière d'écrire. Tout en évitant également de relativiser tout, il y a bien des dominations et des injustices à combattre sans hésitation.
On ne gagnera rien à parler de l'Afrique en l'idéalisant. C'est un continent sur lequel il y a beaucoup de violence, surtout envers les femmes. Je n'en veux pour preuve que ce qu'a fait Boko Haram récemment. La violence baigne le destin des femmes en Afrique et mon héroïne, Onye Sonwu, a vécu dedans, développant en elle une grande colère. Mais c'est une colère qui ne tue pas l'espoir, ce qui est aussi un peu mon état d'esprit quand je vois ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Je suis persuadée que le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique. Et mon travail d'autrice est justement d'amener cet avènement dans mes romans.
Pour finir, on peut donc dire que ce roman nous a énormément touchés à plein de niveaux. Avec ce petit bémol que, même si à un endroit sont mentionnées deux femmes qui s'aiment, le récit est quand même empreint d'une forte hétéronormativité. Et c'est bien dommage.
Et voilà, c'est la fin de cette émission de Vortex et Rotative. On vous a présenté le roman « Qui a peur de la mort » de Nnedi Okorafor. Si vous avez apprécié ce roman, sachez que l'autrice a écrit un second livre qui se passe avant l'histoire de « Qui a peur de la mort » et qui s'appelle « The Book of Phoenix », mais qui n'est pas encore traduit en français.
L'émission est montée avec des extraits musicaux de la flûtiste et compositrice Nicole Mitchell. Voilà, on vous laisse avec la lecture d'un dernier extrait de la postface du roman.
La fiction n'est jamais que de la fiction. Mais les histoires sont bien plus que de simples histoires. C'est particulièrement vrai avec mon travail. Les problèmes du tribalisme, du génocide, de la guerre, du rôle de la technologie et de la modernité, coexistant avec la tradition, ont été précipités dans l'ouragan qu'était cette histoire.
Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et et Campus Grenoble.